Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Monsieur Bruno Vergius, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chef doublement étoilé au Michelin. Vous avez exercé de nombreux métiers à travers le monde, notamment en Asie, avant de vous imposer en autodidacte parmi les grandes voix de la gastronomie contemporaine. Vous êtes également l'auteur d'un essai chez Flammarion, c'était il y a quelques années. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce livre, puisque nous allons parler du livre « La recette » qui paraît aux éditions Albin Michel et qui parle d'une jeune cantonaise très inspirée, très passionnée par la cuisine française.
Oui, alors la recette, en fait, c'est un livre qui a l'originalité d'être un roman. Et c'est le premier qui écrit pas mal de livres, évidemment tous plutôt concentrés sur la cuisine, les produits et l'art de vivre, avec cet essai philosophique que vous avez cité qui est l'art de nourrir. Mais là, c'est mon premier roman. Mmh. C'est même pas qu'un jour je pourrais écrire un roman. Et c'est vrai que j'ai pris un goût particulier à l'écrire parce que je trouve extraordinaire de pouvoir inventer des personnages, notamment celui de Nikki et d'autres protagonistes. Certains sont vrais, comme Alain Passard ou Manu Martinez. D'autres sont totalement fictionnels, et de pouvoir inventer tout ce petit monde comme cela, ça m'a procuré un plaisir incroyable, et surtout, ça m'a permis de faire ce que moi j'aime quand je lis un livre, parce que finalement, quand je l'ai écrit, je me suis placé véritablement du point de vue du lecteur, et donc d'apprendre beaucoup de choses, et de laisser aussi la possibilité au lecteur d'imaginer les situations, de partir dans ses narrations et de s'y intégrer lui-même comme s'il en était un des protagonistes.
Mmh. Alors, Nikki, c'est une jeune Chinoise et en 2023, elle vient en France. Elle a un parcours de designer. Elle est très, très créative et puis aussi passionnée. Elle a dit, vous le dites vous dans le livre, qu'elle a appris la France et le français, en tout cas à devenir française par la bouche. Donc elle a appris le français sur les cartes des menus, en allant dans des restaurants. Donc c'est une façon tout à fait vivante d'apprendre une langue.
Oui, je trouvais ça tout à fait intéressant. D'imaginer que pour découvrir un monde, un univers qui n'est pas le vôtre, on procède comme quand on est un tout petit enfant, ce qui souvent d'ailleurs a la propriété d'agacer les parents, mm-hmm. Dès qu'ils commencent à se mouvoir, qui est de tout porter à la bouche. Mm-hmm. Et il y a ce rapport comme ça justement à la dévoration qui m'intéresse depuis toujours, parce que je suis cuisinier, donc on voit les gens effectivement vous apprécier par la bouche parce qu'ils vous mangent, ils mangent vos créations, ils mangent vos plats. Je trouvais que c'était important de pouvoir ouvrir cette perméabilité en soi qui est de découvrir le monde en le goûtant.
Alors, votre expérience de vie, vous l'avez vous aussi vous en avez irrigué votre amour de la cuisine, donc vous avez voyagé, vous avez eu d'autres parcours professionnels, et là, c'est toute votre toute votre connaissance, toute votre passion de la vie et de la nourriture que vous instillez dans ce roman avec beaucoup de finesse dans l'écriture. Vous n'êtes pas un novice dans l'écriture avec un style pareil. Nous avons parlé d'un essai, mais aussi vous teniez une rubrique dans un journal. Vous écriviez, vous étiez chroniqueur culinaire, et puis aussi vous aviez une émission à France Culture.
Oui, j'avais cette émission magnifique avec mon ami Alain Crugère sur France Culture qui s'appelait, puisque l'émission est terminée maintenant, on ne parle pas la bouche pleine. Émission qui d'ailleurs m'a donné au bout de 4 ans le désir de nourrir, hein, en fait, de faire mon restaurant table à Paris. Mais surtout, si vous voulez, j'ai aussi transposé pour notre cher Mickey le rapport que moi-même j'ai entretenu en fait avec la découverte de la région du Dongguan, c'est-à-dire cette région où il y a, enfin du Guangdong, pardon, où il y a Dongguan, Canton, Shenzhen, parce que pour la comprendre et pour commencer à parler quelques mots de chinois et me nourrir, je l'ai mangé. Et donc c'était ma façon aussi de comprendre de quoi il s'agissait, de commander des plats un peu au hasard. C'était il y a 30 ans maintenant, hein, donc on n'avait pas... aujourd'hui, je pense que tout le monde parle à peu près anglais, et que les cartes dans les restaurants là-bas sont traduites, mais à l'époque, on était dans des petits... tout petit restaurant comme ça, et il fallait bien arriver à se débrouiller. Et donc j'ai appris finalement la culture et à parler un petit peu en mangeant, et donc je l'ai transposé pour notre cher Mickey.
Alors pour vous, un restaurant est avant toute chose un lieu de culture où l'on vient boire, manger, apprendre, mais apprendre et puis connaître les autres, c'est un moment de communier, c'est une façon de communier. La nourriture n'est pas uniquement pour nous sustenter, nous donner les nutriments dont nous avons besoin pour fonctionner en tant qu'être vivant, mais aussi rencontrer les autres et puis partager une passion sincère, vraie, authentique, le fait de manger ensemble.
Oui, je crois que d'une certaine façon, c'est un peu la philosophie de ce livre-là, c'est de dire... On peut se réconcilier tous par la bouche, parce que finalement la cuisine n'existe que par les échanges des hommes et des produits, que par la circulation des idées, des cultures, des rites, des religions, des pratiques, et que pour cela il faut avoir cette attitude d'ouverture au monde, c'est-à-dire accepter de manger ce que fait l'autre, c'est véritablement l'accepter dans ce qu'il est, dans sa totalité. Et ça veut dire aussi avoir cette capacité à s'ouvrir au monde et à s'ouvrir aux autres. Mmh. Et pour moi, c'est quelque chose de très important, surtout dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire extrêmement compliqué, extrêmement chahuté, extrêmement heurté aussi, extrêmement avec une violence qui peut s'exprimer évidemment par les guerres, par les attentats, par tout ça, mais qui s'exerce aussi beaucoup par la pensée, par le fait de ne plus jamais accepter qu'on puisse penser différemment qu'une doxa générale ou d'un point de vue qui serait le bon point de vue, et ne pas accepter de comprendre qu'on peut avoir des points de vue différents et que c'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on va les accepter, qu'on va les faire siens, mais en tout cas accepter de les regarder, de les observer et de dire bah oui, on peut penser autrement et d'une certaine façon, même si je ne suis pas d'accord, c'est intéressant. Et la nourriture, c'est ça. C'est-à-dire revenir à la nourriture, c'est pas dire « Ah mais j'aime pas ta cuisine parce que je t'aime pas », mais c'est au contraire, j'ai le désir de pouvoir te comprendre et peut-être que par ta cuisine, je peux m'ouvrir à d'autres mondes, à d'autres univers, à d'autres pensées, et puis petit à petit, commencer à les faire miennes. Parce que finalement, c'est ça qui nous constitue tous, nous, petits humains.
Alors, comment définir votre cuisine, Bruno Verjus ? Vous êtes avant tout un défenseur des saveurs franches, nettes, parfois insolites, parfois clivantes. C'est une recherche, c'est un art. Alors, ma question est comment, pour manger, lorsque nous mangeons, c'est un acte personnel, instinctif, impulsif, parfois passionnel, parfois aussi. Comment est-ce que l'on peut se pencher sur une cuisine artistique et être parfois heurtés par des produits, des façons de traiter des produits qui sont un peu curieuses. À la limite du sacré, puis l'idée que lorsque nous mangeons de la viande, c'est de la chair morte. Ce n'est pas, moi j'adore la viande, mais je veux dire que est-ce qu'il faut passer le sas de la mort parfois pour atteindre une compréhension plus profonde au niveau de la cuisine, bien sûr.
Moi, je suis un apôtre du vivant, donc c'est vrai que j'essaie de travailler vraiment les produits quand ils ont quelque chose à raconter et qui témoignent surtout d'une vie joyeuse, d'une vie audacieuse, d'une vie partagée. Alors même quand on va parler de protéines animales, de poissons, de viande et de tout cela, évidemment, il faut qu'on sente néanmoins la vie encore dans les animaux et le respect de cette vie. Et je pense qu'on est plus dans l'ordre de dire à un moment, il y a un animal qui a été sacrifié, mais pour le bien-être commun et parce qu'il a eu une vie magnifique, on va manger la joie, on va manger le bonheur. Je déteste l'idée, et ça arrive quelquefois, hein, avec des protéines animales, de manger un cadavre. Quelquefois, on est très mal à l'aise
oui.
par rapport à la dégustation d'une viande ou d'un poisson, ou en tout cas de n'importe quelle protéine animale, parce qu'on a vraiment le sentiment de manger un cadavre. Et c'est quelque chose que je ne fais jamais. D'abord, je travaille très peu de viande animale, et quand je la travaille, c'est vraiment des animaux qui ont eu une vie merveilleuse et qui ont d'une certaine façon été élevés pour cela, pour qu'il y ait un sacrifice final et qu'il y ait quelque chose de l'ordre du don d'eux-mêmes. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important de le ressentir, c'est-à-dire que prendre la vie d'un animal, c'est un moment important et on doit presque, c'est presque religieux, c'est précieux, mmh. et donc on ne doit pas en faire n'importe quoi, mmh. et on doit essayer de le partager au mieux pour, comme on dit quelquefois chez les cuisiniers, pour pas qu'il soit mort pour rien. Mmh. Et malheureusement, il y a beaucoup d'animaux qui sont morts pour rien, et ça, c'est d'une grande tristesse. Voilà.
Alors, ça évoque pour moi une partie, un chapitre du livre où vous parlez d'un coq vierge qui a été vraiment élevé séparément et qui a développé en lui une réaction à cette abstinence, une réaction d'une chair affinée quelque part.
Oui, alors c'est assez étonnant. C'est le grand coq vierge de Barbezieux. J'ai découvert chez Alexandre Dumas, dans une préface du grand dictionnaire de gastronomie. Et en fait, ça m'a beaucoup intrigué. J'ai un ami qui est à la Montagne-sur-Beaune, à la ferme de la Ruchotte, Frédéric Ménager, qui élève des barbezieux. Et donc, je lui ai demandé s'il pouvait un jour en élever. À l'époque, je faisais une vente aux enchères chez Arcurial au profit de la Croix-Rouge en vendant des produits tout à fait inédits qu'on ne connaissait plus, qu'on avait oubliés ou qui étaient d'une rareté absolue. Et si vous voulez... c'est intéressant parce qu'effectivement, la façon dont il est élevé, alors je ne sais pas si c'est l'abstinence ou la qualité de l'élevage, mmh. mais qu'on a à la fois le caractère d'une viande de coq, qui a du caractère, qui est une viande vraiment intéressante, et en même temps la douceur et l'onctuosité et le charme de la viande d'une poularde, puisqu'en final, il est élevé... avec des céréales cuites, avec du lait, donc d'une certaine façon, il est un peu engraissé, je dirais presque comme un petit moine, voyez-vous, mm-hmm. c'est-à-dire, voilà, alors à l'époque, c'est les bonnes sœurs qui élevaient les grands coqs vierges de Barbezieux, et elles appelaient ça les maîtres au séminaire, donc il y a aussi un rapport un peu comme ça, presque de mystique religieuse sur à la fois aussi un rapport au temps, parce que c'est une année d'élevage, donc c'est très long, et là on obtient quelque chose, voilà, on est presque dans une forme de transsubstantiation, mm-hmm. c'est-à-dire qu'on a une chair qui n'appartient plus ni au mâle ni à la femelle, mais qui appartient finalement au gourmand, mm-hmm. et c'est beau. Mm-hmm.
Alors, cet art de votre cuisine a été encensé, récompensé par des étoiles. Alors, en 2018, le Michelin oui. vous récompense d'une étoile. En 2020, vous avez une étoile verte dédiée à la gastronomie durable. Et en 2022, le guide rouge vous décerne une deuxième étoile. Alors là, c'est une pluie d'étoiles sur le créateur, l'artiste que vous êtes.
Oui, c'est assez intéressant parce que je suis un autodidacte. J'ai commencé il y a 13 ans, donc ça a été assez rapide en réalité. Et je crois qu'effectivement, je suis dans un lieu très atypique. TAB, c'est un lieu vraiment très atypique. Je crois que le Michelin, effectivement, a été sensible justement à ce travail du vivant, à ce rapport au produit, à ce rapport aussi au client avec lequel on essaie d'entretenir des relations tout à fait, uniques. Hein. On prend vraiment soin, on est bienveillant. J'ai une équipe de salle merveilleuse, j'ai une équipe de sommellerie merveilleuse qui est aussi très créative. Et je crois que cet ensemble-là a su toucher probablement les inspecteurs du Michelin jusqu'à nous décerner la deuxième étoile. Alors la deuxième étoile, elle était ici assez extraordinaire, assez unique parce que c'est la première fois en 120 ans du guide Michelin que l'Est parisien, c'est-à-dire pas uniquement le 12e arrondissement, mais tout l'Est parisien se voyait un restaurant recevoir deux étoiles, ce qui n'avait jamais été le cas, puisque les restaurants étoilés sont plutôt à l'ouest, c'est-à-dire entre guillemets dans les quartiers plutôt riches. Mmh. Alors que nous sommes plutôt dans des quartiers populaires, on va dire.
Parler de ce roman, La Recette, qui paraît aux éditions Albin Michel, et nous nous rencontrons pour en parler. Ce roman réunit une calligraphe, un antiquaire, un cuisinier. Ce sont des personnages qui tous ont largué les amarres et ont vogué en haute mer, la mer de leur inspiration, de ce qui les passionne. Il y a d'ailleurs des citations des moments de musique, par exemple Aquarium de Camille Saint-Saëns, et il y a une allusion à cette musique. Il y a aussi le piège de la méduse de Eric Satie. Il y a beaucoup de et puis aussi il y a un livre qui m'a passionnée, c'est le livre de l'inventeur du microprocesseur, Fagin.
Oui.
Qui a écrit Irréducible.
Oui.
Alors, il y a des tangentes vers de la culture annexe qui nourrit le texte, puisque ce texte est très bien écrit et que vous avez une plume de poète.
Vous savez, ce qui m'intéresse toujours dans la vie, c'est ce qu'on appelle le pas de côté, c'est-à-dire être capable de sortir un petit peu des choses et de les regarder comme ça. Et je crois que le point commun sur toutes les personnes que vous citez, y compris Roberto Fagin, oui, c'est d'avoir toujours été capable d'avoir ce pas de côté et d'être des gens curieux, curieux de la vie, curieux de beaucoup de choses.
Bien. Alors, donc, Mickey, votre héroïne, qui est animatrice de dessins animés et d'origine cantonaise, elle débarque à Paris en 2023 et elle prend la cuisine très au sérieux, puisque nous avons dit que c'était pour elle un moyen d'entrer dans l'univers du français, d'apprendre à être française, d'apprendre la langue. Et c'est une jeune femme qui goûte le monde.
Effectivement, elle a une éducation, je dirais, chinoise assez classique. Donc, d'une certaine façon, tourner vers l'art et l'ouverture de l'esprit artistique au monde. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Et effectivement, vers 6 ans, elle a un prix à l'école, alors que c'est une toute petite enfant. Mais sa mère veille sur elle avec beaucoup de vigilance, comme une mère chinoise qui est à la fois aimante et exigeante. Et quand on lui remet ce diplôme, cette petite fille, elle se fait une promesse que personne ne connaîtra avant très longtemps, mais elle se fait une promesse. Et finalement, ce qui va l'amener à venir à Paris, c'est-à-dire la rencontre, les coups, en même temps, elle fait du piano, elle a une éducation classique chinoise de la musique, des arts, en quelque sorte. Et quand donc elle est très sensible à la musique, elle est très sensible aux compositeurs, elle est très sensible à la poésie, elle est très sensible à l'art, à la beauté. Et d'une certaine façon, elle écoute Amélie Poulain, elle se sent attirée par Paris et elle vient à Paris. Donc elle quitte tout ce qu'elle connaît pour aller découvrir un nouvel horizon, une nouvelle culture qu'elle va, comme on l'a dit, découvrir par la bouche en le mangeant. Et elle va continuer effectivement l'exercice de son art à travers l'animation de dessins animés. Et cet exercice va l'amener finalement à comprendre que cette promesse d'enfant constitue une quête qu'elle doit mener à bien comme toute quête de quand on a un objectif dans la vie. Et finalement, se rendre compte aussi que la quête et cet objectif vont la dépasser totalement parce que l'enjeu est bien plus important pour elle et pour ce qu'elle cherche vraiment, c'est-à-dire devenir aussi une belle personne.
Alors, elle a des amis qui sont très, très précieux, très, très généreux, très sensibles à elle. Il y a donc un antiquaire, Gio, et puis un cuisinier, Alexandre Jacob. Est-ce que ces personnages sont fictifs ou bien est-ce que vous les avez rencontrés? Par exemple, Mickey, la chinoise, la cantonaise, et Gio, Alexandre, qui semble être très proche de vous. Ou est-ce que je me trompe?
Vous me trouvez? Oui, oui. C'est un peu mon doute de papier, en réalité. Vous avez raison. Mais en même temps, c'est pas moi, parce que si ça avait été moi, il se serait appelé Bruno Verjus. Oui. Donc, c'est là justement où on a la beauté du roman, c'est-à-dire que la beauté du roman, elle emprunte toujours à la réalité, à des éléments réels, c'est-à-dire quand on écrit un roman, on est un peu une éponge, on absorbe ce qu'on écoute, ce qu'on voit, ce qu'on vous dit, ou quelquefois ce que l'on trouve sans le chercher, et puis on le transpose dans quelque chose de complètement différent, c'est là où le romanesque arrive, surgit quelquefois même sans que vous l'ayez souhaité, il s'impose à vous. Et c'est ça la beauté de l'écriture. Et donc, voilà, Gio, c'est une personne qui existe parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est un antiquaire aux puces de Paris. Mais tel qu'il est dans le roman, évidemment, c'est pas lui. Et même des personnages qui, eux, sont de vrais personnages, comme Manu Martinez, le chef du relais Louis XIII, ou mon ami, mon autre ami Alain Passard, qui, eux, sont des vrais personnages, mais ce que je leur fais faire et ce que je leur fais dire, évidemment, ils ne l'ont jamais fait et ils ne l'ont jamais dit non plus. Et c'est ça qui est magnifique, je trouve, dans l'écriture d'un roman, c'est que tout est possible. Et que le réel n'est qu'une façon de rebondir finalement sur le romanesque.
Alors, la vie bascule souvent sur un simple parfum en bouche. Vous écrivez ça quelque part dans votre livre. Oui. Et c'est tout à fait vrai, donc, de cette incidence de ce que nous mangeons, non seulement sur notre capacité de métaboliser les nutriments, mais aussi des expériences psychiques. Et à la lecture de votre livre, si je peux me permettre, c'est une lecture initiatique. Nous traversons un moment très intéressant, très passionnant, très agréable. C'est un livre très agréable à lire. Et puis, nous y revenons parce que nous n'avons pas tout à fait retenu un processus d'expression. Il y a un lexique, il y a des mots rares, il y a une expression sincère de vous en tant qu'artiste écrivain, pas simplement cuisinier. Cuisinier, bien sûr, à multi-étoilé.
Ben, je vous remercie beaucoup, c'est très touchant de dire tout ça, mais en même temps, je crois qu'effectivement, quand on écrit un roman, peut-être le premier roman d'ailleurs, on donne beaucoup des facettes de sa personnalité, et comme vous le suggérez, même si tout est inventé, tout est romanesque, en réalité, on y met beaucoup, beaucoup, beaucoup de soi, et quelquefois même, c'est presque de l'ordre d'une psychanalyse, c'est-à-dire que on dit plus de choses finalement sur soi-même à travers des situations romanesques que si on écrivait finalement un journal intime. Mais encore une fois, je crois que c'est la beauté de l'écriture, c'est qu'on a énormément de niveaux de lecture, donc on peut le comprendre de mille façons, et c'est pour ça que le relire quelquefois, comme quand on revoit un film, eh bien on y découvre d'autres choses qu'on n'avait peut-être pas vues ou lues la première fois.
Alors, il y a des plats précieux, non pas alambiqués, mais qui sont très, très, très riches de connotations. On a l'impression d'avoir des œuvres d'art dans l'assiette. En tout cas, lorsque nous lisons votre texte, nous voyons une composition très, très, très précise, très inspirée de ces plats. Il y a aussi des personnages mythiques, comme il y a des allusions à Manuel Martinez du restaurant mythique Le Relais Louis XIII. Il y a Yannick Aleno, et c'est vraiment un voyage très enrichissant, très agréable que la lecture de votre livre. Je rappelle donc La Recette, c'est un livre qui paraît aux éditions Albin Michel. Retenir aussi la simplicité pure de vos titres. Par exemple, votre restaurant s'appelle Table.
Ah oui.
Et c'est vraiment comme une signature. C'est radical. Il y a un trait d'encre noire, comme un dessin. Table, la recette. C'est vraiment très remarquable.
Mais je vous remercie infiniment, en tout cas, de vos questions et de votre écoute, parce que, encore une fois, c'est presque comme quand on lit et relit un livre, chaque fois qu'on en parle, on y découvre aussi, grâce à vous, grâce aux questions, de nouvelles choses, de nouvelles façons qu'on n'avait peut-être pas forcément toujours vues, en tout cas éclairées sous cet angle-là. Et ça me ravit parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce sont de nouveaux pas de côté qui vous éclairent et qui vous donnent envie aussi d'aller plus loin. Et la façon dont je conçois mes plats, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que j'essaie de faceter des produits, de donner différents angles, différents aperçus, pour pouvoir justement en profiter au maximum et montrer que la vie, c'est pas quelque chose qu'on ne peut regarder que d'une seule façon, c'est-à-dire avec sa connaissance, avec sa culture, et les autres non plus, et qu'il faut accepter justement quelquefois de changer de point de vue. On dit quelquefois que le voyage aussi permet justement de changer la façon de penser ou le point de vue. Et je crois que dans la vie de tous les jours, le pas de côté permet justement de mieux comprendre les autres, de mieux les apprécier et de mieux aimer le monde et la vie.
Alors si votre livre, La Recette, comme j'ai dit, est enchanteur au niveau de l'écriture, de l'évocation, de la finesse, peut-être que chaque lecture de lecteur est une variation à cette musique première que vous avez livrée dans votre livre. Chaque lecture ressuscite, recrée, incarne ce texte, comme pour chaque lecteur par rapport à un texte. Et ce texte est magnifique. La Recette, roman, qui paraît aux éditions Albin Michel. Merci Bruno Verjus.
Merci infiniment, merci beaucoup de cet entretien qui me ravit et qui me remplit de bonheur. Merci beaucoup.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.